Bon matin, bon matin. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est un privilège d'être avec vous pour ce dernier dimanche de l'année 2025. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et aujourd'hui ne fait pas exception. Et aujourd'hui, nous n'allons pas être dans un exposé dans une de nos séries traditionnelles. Mais notre exposé biblique ce matin est hors série. Mais il s'inscrit quand même dans une tradition. La tradition que nous avons depuis plusieurs années de faire du dernier dimanche et souvent du premier dimanche un message spécial. Et ce message qui, on pourrait dire aujourd'hui, c'est le bye-bye 2025. Le bye-bye, le message du bye-bye 2025 va nous donner l'opportunité de faire le bilan de notre année, et de voir où nous en sommes avec le Seigneur. Donc, c'est vraiment un moment idéal pour nous ce matin de faire une rétrospective de tout ce que nous avons vécu. Et en faisant cette rétrospective, nous pouvons réaliser qu'il y a des moments dans notre vie, il y a des saisons où nous avons le sentiment que le temps nous file entre les doigts. Vraiment que le temps nous file entre les doigts. Et dans ces moments, ils sont caractérisés soit par une échéance qui approche trop vite, une décision qui tarde, ou encore un traitement qui n'apporte pas les résultats qu'on attendait. Et dans ces moments où nous avons le sentiment que tout s'acharne contre nous, on peut regarder ces moments et se dire des imprévus, mais aussi parfois des tempêtes que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Et nous finissons par nous poser une question, et c'est sur cette question que j'aimerais que nous puissions réfléchir ce matin. Qui tient l'horloge de ma vie entre ses mains? Qui est à la barre quand les vents souffle très fort et quand le ciel s'obscurcit? Bien-aimés, laissez-moi vous rassurer ce matin. La Bible nous donne clairement une réponse sans ambiguïté à cette question. Dieu est le maître absolu du temps et des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Et la Bible nous enseigne qu'il a placé des luminaires pour marquer les temps, les époques et les années. Alors, il ne nous a pas livrés à un hasard, mais il a inscrit notre histoire dans la sienne. Bien-aimés, cette conviction ne nie pas la réalité des choses. Nous ne sommes pas en train de faire la politique de l'autruche. Nous ne nions pas la réalité des délais et des tempêtes qui peuvent bouleverser le cours de notre vie. Mais nous déclarons simplement que ces délais et ces tempêtes ne sont pas souverains, mais que Dieu est souverain dans notre vie. Bien-aimés, nous allons prier et notre sœur Esther viendra nous lire deux passages bibliques. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin nous voulons t'honorer. Seigneur, tout au long de 2025, tu nous as conduits par ta main de grâce. Et nous voici à quelques jours de la fin de cette année, notre dernier dimanche. Et nous voulons, Seigneur, en ce jour, te célébrer pour qui tu es. Seigneur, tu as été bon envers nous tout au long de cette année, malgré des moments parfois difficiles. Et aussi, nous avons eu le privilège de connaître des moments de joie et d'allégresse. Mais Seigneur, en ce jour, nous voulons renouveler notre engagement de t'appartenir et regarder 2026 qui s'annonce comme une année de grâce. Une année où nous allons continuer à cheminer, à marcher avec toi de victoire en victoire. Éternel, ce matin, viens nous parler au travers de ta parole. Viens nous instruire dans ta parole. Seigneur, efface-moi de devant ton peuple ce matin et parle à ton peuple directement, esprit à esprit, cœur à cœur. Seigneur, viens te glorifier dans la vie de ton peuple ce matin. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité. C'est en Jésus-Christ et pour sa gloire que nous prions. Amen.
Bonjour. Alors, on fait la lecture aujourd'hui dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8, les versets 41 à 54, dans la nouvelle édition de Genève, et on complétera avec Daniel 2, 21. Donc, Luc 8, 41. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et que tu dis, « Qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et le prophète Daniel nous dit au chapitre 2, verset 21, en parlant de Dieu, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. »
Merci Esther. Si nous méditons les deux passages qui viennent de nous être lus dans Luc et dans Daniel, je voudrais qu'au travers de cette méditation, de ces deux textes, nous puissions apprendre comme peuple de Dieu à regarder notre temps et nos circonstances avec le regard et la souveraineté de Dieu. Voici comment je résumerai l'exposé biblique d'aujourd'hui. Christ est le maître absolu du temps et des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Plaçons notre confiance en lui, car celui qui change les temps et les circonstances prépare pour nous des projets de paix et d'espérance. Si nous regardons ce résumé de l'exposé de ce matin, nous pouvons l'articuler en trois parties. Dans la première partie, nous verrons que Christ est le maître du temps. Il est le créateur du temps et il a le contrôle absolu sur ce temps, autant hier, aujourd'hui et éternellement. Ensuite, dans la deuxième partie, nous découvrirons que Christ demeure maître de toutes les circonstances, le Seigneur des circonstances, autant dans l'histoire des nations que dans les épisodes souvent chaotiques de nos vies. Et enfin, nous allons adopter individuellement, bien-aimés, une résolution simple, une résolution ferme, mais puissante pour toute l'année. Et cette résolution consiste à compter sur le maître du temps et des circonstances avec foi, courage et dans la prière. Le vœu de mon cœur, bien-aimés, ce matin, pour chacun d'entre nous, en quittant la salle ce matin, c'est que nous puissions chacun réaliser véritablement que celui qui change les temps et les circonstances demeure le maître de notre histoire. Cette vérité va cadrer notre regard sur la vie, va apaiser nos peurs, va activer notre foi et même nourrir notre prière. Le premier point que j'aimerais voir ce matin avec vous, Christ, maître du temps. Quel regard, bien-aimés, portons-nous sur la notion du temps? Est-ce simplement un concept humain que les gens ont inventé grâce à l'intelligence humaine? Le temps est-il une divinité capricieuse qui se joue de nous? C'est quoi le temps exactement? Comme certaines croyances ont pu le penser. Bien-aimés, il est temps de mettre les pendules à l'heure sans faire un mauvais jeu de mots. Le temps est une créature. Le temps est une créature. Il a commencé quand Dieu l'a voulu. Et il progresse au rythme que Dieu a décidé. Et il s'achèvera quand le Seigneur aura dit, il est accompli. Cette perspective va libérer nos âmes. Nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas esclaves du temps ou d'une horloge espiègle qui se joue de nous, du temps qui se joue de nous. Mais au contraire, la Bible nous enseigne que nous sommes des enfants d'un Dieu souverain. Nous sommes des enfants d'un Dieu souverain qui sait exactement où nous sommes. Le Seigneur sait exactement où nous sommes. La Bible dit qu'il sait compter nos pas. Il sait compter le temps qui sépare notre pas du second que nous allons faire. La Bible ne dit-il pas dans les psaumes que Dieu connaît exactement l'heure à laquelle nous nous levons? Et il connaît exactement l'heure à laquelle nous nous couchons. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu est le créateur du temps. Regardez avec moi dans Genèse 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. La Bible nous enseigne qu'au commencement, Dieu a placé des signes dans le ciel pour marquer les époques, pour marquer les jours et les années. Les saisons ne sont pas le fruit du hasard. Les saisons ne sont pas le fruit d'un hasard cosmique, mais les saisons sont des repères pédagogiques que Dieu a placés pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre et nous enseigner la patience, pour nous enseigner d'espérer en lui, pour nous enseigner le rythme d'une vie qui s'inscrit dans le calendrier divin. Bien-aimés, regardez un agriculteur, il sème. Il sème et il attend patiemment que la semence pousse jusqu'à ce que le temps de la récolte arrive, il patiente. Et une fois que le fruit est mûr, il patiente jusqu'à ce que le fruit atteigne sa pleine maturité afin de récolter ce fruit juste au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Bien-aimés, comme enfants de Dieu, moi je veux bénir le Seigneur pour toutes les saisons de ma vie. Toutes les saisons de ma vie, que ce soit la germination, que ce soit la croissance, que ce soit le temps de la récolte et parfois même la jachère. Vous savez, la jachère, c'est une période qui est considérée comme non productive, c'est un repos forcé. Mais la jachère dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une phase inutile, c'est juste une période qui prépare la prochaine fécondité. C'est ça la jachère. Si Dieu a créé les temps, il a aussi créé des pauses. Les pauses font partie du plan de Dieu pour l'enfant de Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, Dieu qui a créé les temps a aussi créé les pauses, pourvu que nous, comme enfants de Dieu, nous apprenions à rentrer dans ces pauses et en ayant toujours conscience de sa présence avec nous. Dieu n'a pas seulement créé le temps, mais il le contrôle aussi. Dieu contrôle le temps. Il n'a pas seulement créé le temps, il le contrôle. Regardez avec moi le passage dans le livre de Josué. Josué au chapitre 10, les versets 10 et 12, il est écrit. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit, en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, Et la lune suspendue sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher jusqu'à presque tout un jour. Voilà ce que la Bible nous enseigne dans Josué 10, le verset 12 à 13. La prière de Josué nous rappelle une vérité importante. Dieu peut suspendre le cours normal des heures pour accomplir ses desseins, sans transformer chaque jour en un miracle spectaculaire. Dieu est capable, tout simplement, et il a la liberté et la souveraineté de rallonger un délai si bon le semble. Dieu peut rallonger un délai dans notre vie s'il le juge important, ou même raccourcir une attente s'il juge aussi cela important, ou même déplacer une échéance s'il trouve cela important, parce qu'il est le contrôleur du temps. Dieu n'est pas prisonnier des horloges humaines. Dieu n'est pas prisonnier des horloges humaines. Bien-aimés, regardez tous, prenez vos téléphones. Vous êtes autorisés aujourd'hui à prendre vos téléphones. Prenez vos téléphones et dites-moi quelle heure il est. OK. Êtes-vous sûr que c'est la bonne heure que vous avez sur votre téléphone? Mais moi, je peux vous garantir que ce n'est pas la bonne heure. Tout simplement parce que si on n'avait pas décalé l'heure d'une heure, il y a quelques semaines, vous ne m'aurez pas donné cette heure. Bien-aimés, voyez-vous, en tant qu'être humain, nous avons décidé pour des raisons économiques et pour des raisons d'ensoleillement de reculer l'heure à l'automne. Et nous tous, aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'il est 11 heures. On est fiers de dire qu'il est 11 heures. Et le créateur du temps, le contrôleur du temps, n'aura-t-il pas le droit de ralentir le temps quand il le souhaite, de le rallonger s'il le souhaite? Bien-aimé, c'est lui le contrôleur du temps. La prière de Josué nous interpelle ce matin et nous dit clairement que Dieu a le contrôle absolu sur le temps. Il a arrêté le soleil et la lune a arrêté sa course. Gloire à Dieu. Allons plus loin. Luc 8, 41 à 44. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu le guérir, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Bien-aimés, quand nous lisons les versets 41 à 44, nous avons comme un tableau. Nous avons un tableau qui nous présente deux destins croisés. D'un côté, Jaïrus, chef renommé, respecté, et une femme anonyme, dont on ne connaît même pas le prénom. Une femme anonyme, on ne connaît même pas comment elle se nomme. On ne la lit même à rien. C'est une femme anonyme, banalisée, marginalisée. 12 ans de souffrance pour l'une, et une fille d'environ 12 ans pour l'autre. Le récit juxtapose deux réalités. Le prestige d'un Jaïrus, chef de la synagogue, et nous montre la vulnérabilité de cette femme pour souligner que la grâce de Christ est la même, sans distinction. Quel que soit notre statut social, la grâce de Dieu est présente dans toutes les histoires. Bien-aimé, je ne connais pas ton histoire ce matin, mais je peux te garantir une chose. La grâce de Dieu est présente dans ta vie. Je ne connais pas ton histoire, mais je peux te rassurer ce matin que la grâce de Dieu est présente dans ton histoire. Maintenant, le reste est de ta responsabilité. Que veux-tu faire de cette grâce? Que veux-tu faire de cette grâce? Et si ce matin tu es en visite ici et que c'est la première fois que tu entends l'évangile, je veux te rassurer ce matin que la grâce de Dieu est dans ton histoire. Tu peux décider de bénéficier de cette grâce ce matin. Que veux-tu en faire? Ici, dans l'histoire que nous venons de lire, il y a une dynamique d'un retard apparent. L'interruption d'une femme malade semble être quelque chose de dramatique pour Jaïrus. Mettez-vous un seul instant dans les souliers de Jaïrus. Lui qui espérait que sa fille unique, sa fille bien-aimée, puisse être secourue, qui était en train de mourir, s'il n'était pas, si le Seigneur ne se faisait pas arrêter par n'importe qui sur le chemin. Vous comprenez? Pour Jaïrus, c'était n'importe qui. Cette femme marginalisée, c'était n'importe qui. Lui qui attendait que Jésus intervienne dans la maison, dans sa maison, pour sauver son unique fille de 12 ans, sa bien-aimée. Et Jésus se fait arrêter. Pourtant, ce détour devient un tremplin pour la foi. Cette fameuse assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais qu'on peut percevoir par les yeux de la foi. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus transforme cette interruption en une pédagogie du cœur. Regardez avec moi les versets 49 et 50. Comme il parlait encore, survient de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Bien-aimé, quand Jésus arrive dans la maison de Jaïrus, nous apprenons une autre leçon. Aux yeux de l'entourage, Jésus est arrivé en retard. Il est arrivé en retard. D'ailleurs, on lui a envoyé un émissaire pour qu'il économise son temps, pour qu'il ne vienne pas dans la maison. Mais aux yeux du maître, du temps et des circonstances, Jésus était arrivé juste pile poil au bon moment. Il était arrivé au bon moment. L'heure était parfaite. C'est pourquoi Jésus dit au père de l'enfant, « Ne crains pas, crois seulement. » Comme Jésus, c'est un peu comme si Jésus nous apprenait un alphabet nouveau. La foi ne lit pas le temps avec le regard que les hommes ont généralement. La foi lit le temps avec un regard différent. La foi ne cède pas ni à la panique des minutes qui s'égrènent, ni à la fatalité des heures qui semblent perdues. C'est ça la foi. Quand tu crois que c'est trop tard, pose-toi ou demande-toi si ce n'est pas simplement l'heure du miracle. Est-ce qu'il t'est arrivé dans ta vie de croire que c'est trop tard? Tu dis, je l'ai raté. J'ai vraiment raté cette opportunité, cette occasion. Non, non, c'est vraiment la fin pour moi. Si tu le crois, mais pose-toi la question si ce n'est pas tout simplement le signe que Dieu t'envoie pour te dire que c'est l'heure du miracle. Quand tu penses que ça presse vraiment, alors pose-toi la question suivante, certes plus facile à dire qu'à faire. N'est-ce pas l'instant idéal pour apprendre la patience et la confiance en Dieu? Parfois, nous sommes tellement stressés que nous voulons la réponse tout de suite. Alors que Dieu dit quoi? Relax, zen. Pose-toi la question si Dieu n'est pas en train de t'apprendre tout simplement un alphabet nouveau, l'alphabet de la foi, qui te dit patience, confiance. Le maître est au contrôle. Le maître du temps n'est jamais en retard, même lorsqu'il traverse la foule et doit s'arrêter pour s'occuper d'une âme qui était en détresse. Bien-aimés, regardons ensemble le deuxième point que j'aimerais aborder ce matin avec vous. Christ, le maître des circonstances. Cette année, comme Joël le disait dans son introduction, a été riche en événements. Des événements de toutes sortes. L'humanité est remplie d'événements. Que ce soit des événements politiques, économiques, climatiques, personnels, on peut en faire une longue liste. Certains sont glorieux et d'autres sont complètement catastrophiques. Mais les uns comme les autres, aucun de ces événements n'est un souverain autonome. ils sont des scènes. Des scènes que le maître, le metteur en scène de l'histoire, a placées. Et il les a placées pour pouvoir nous montrer et nous faire la démonstration de sa sagesse et de sa puissance. Si Daniel confesse dans le texte que Esther nous a lu tantôt que Dieu change les temps et les circonstances, c'est parce qu'il a appris à lire l'histoire non avec ses propres lunettes, mais avec les lunettes de la souveraineté de Dieu. C'est un peu comme un logiciel de lecture. Vous savez, les logiciels pour lire un fichier, par exemple pour lire une vidéo. C'est comme un logiciel de lecture. Le logiciel de lecture du cours de l'histoire a connu un bug. Vous savez, en informatique, ça dit que ça ne marche plus. Mais ce n'est pas un bug de conception, ce n'est pas à la conception que le problème a eu lieu. C'est un bug qui est arrivé plus tard grâce à un virus qui s'appelle le péché. Le péché est rentré dans le logiciel de lecture de l'histoire et le logiciel ne marche plus. Jésus n'est pas venu pour réparer le logiciel, mais Jésus est venu pour changer de logiciel. Jésus est venu pour changer le logiciel de lecture. Christ ne vient pas le réparer. Nous voulons arrêter d'utiliser notre vieux logiciel qui ne nous permet pas de lire le temps et les circonstances avec le regard de Dieu. Et nous voulons adopter le nouveau logiciel qui s'appelle le logiciel de la foi. C'est avec ce logiciel qu'il faut lire. Alors nous allons passer d'une vue déformante à une vue de la foi. Christ est maître des circonstances dans l'histoire des nations. Voilà ce que Daniel 2:21 nous dit. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. La Bible nous dit que Dieu établit et il renverse les rois. Il n'a ni besoin de la permission des puissants, il n'a pas besoin du consensus des foules, il n'a même pas besoin de la majorité simple ou de la majorité des deux tiers, des représentants du peuple pour pouvoir gouverner le monde. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament nous parle d'un Dieu souverain qui n'est jamais déstabilisé par l'agitation dans les nations. Les empires passent, mais la fidélité de Dieu demeure. Les empires passent, mais la fidélité de Dieu demeure. Pour nous, comme enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, nous ne sommes pas des spectateurs et pris au piège des actualités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais par contre, la Bible nous dit que nous sommes des témoins appelés à l'espérance. Nous ne sommes pas plutôt absorbés par l'angoisse ambiante, mais nous convertissons cette angoisse ambiante en prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Attention, l'espérance chrétienne n'est pas synonyme de naïveté. Elle est plutôt très lucide. Quand les chrétiens parlent d'espérance, ce n'est pas parce qu'ils sont trop naïfs pour voir la réalité. Elle est très lucide, l'espérance chrétienne. Elle est plutôt très lucide et éclairée par la souveraineté de Dieu. Christ exerce un contrôle absolu et souverain sur tous les temps et les circonstances. Il influence l'histoire de l'humanité comme jamais. Il a orchestré tout ce qui arrive dans le monde, même les choses que vous n'aimez pas qu'ils arrivent. Il y a des gens ici, pendant 2025, il y a des événements, ils ont dit, « Mon Dieu, pourquoi ça arrive ?» Mais Christ orchestre divinement tous ces événements et il en a le contrôle absolu, ceci dès le commencement. Il contrôle tout, non seulement l'histoire du monde, mais la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu contrôle l'histoire de nos propres vies. Dieu contrôle l'histoire dans nos vies. Voici, il est le maître des circonstances dans nos vies. Lisez avec moi, on reste toujours dans Luc 28, dans Luc 8 plutôt, les versets 22 au verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Puis il leur dit, « où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Sur le lac, une tempête s'est levée. Les disciples crient, nous périssons. Jésus se lève, parle au vent et au flot, et le calme revient. Bien-aimé, le calme qui revient ne parle pas seulement du calme des éléments, du vent et de l'eau. Il parle aussi du calme qui est revenu dans le cœur des disciples qui étaient en panique. Bien-aimé, certes, il y avait tempête. On ne le nie pas. La Bible dit qu'il y avait tempête. Donc, c'est une réalité. Certes, il y avait tempête. Mais l'agitation et la panique des disciples amplifiaient leur situation à chaque instant. C'est un peu comme la malheureuse histoire de nos vies, la triste histoire de nos vies, où souvent notre panique nous cause plus de tort que les conséquences de ce qui a causé la panique. Je vais le reprendre, bien-aimé. Souvent, la panique et la frayeur que nous éprouvons face à une situation nous causent plus de tort que les conséquences de la situation elle-même. Imaginez tout simplement des personnes sans tempête dans une barque. Une barque, là, je ne parle pas d'un bateau, là. Une barque. Imaginez des personnes qui se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Est-ce qu'ils ont besoin d'une tempête pour se noyer? Est-ce qu'ils ont besoin d'une tempête pour se noyer? Ils vont se noyer sans même la tempête. Et c'est exactement ce que nous faisons. Face à certaines situations, nous paniquons à tel point que la panique même nous écrase avant que les conséquences de la situation nous écrasent. Bien-aimés, apprenons à faire appel. Le maître des circonstances n'abolit pas l'orage. Est-ce que vous avez remarqué? Jésus était dans la barque, mais il n'a pas empêché l'orage d'arriver. Il n'abolit pas l'orage. Il le traverse avec nous. Il nous apprend à l'affronter. Il nous enseigne la paix, que la paix ne dépend pas de la météo, des circonstances qui nous entourent, mais de sa glorieuse présence dans la barque. N'a-t-il pas dit à ses disciples avant de partir? Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Passons de l'autre côté du lac. Est-ce qu'ils étaient de l'autre côté du lac? Non. Alors pourquoi avaient-ils peur? Le maître a dit, passons de l'autre côté du lac. Bien-aimés, il nous rappelle que la foi n'est pas une émotion qui fructifie, qui change au gré des vents. Contraire, mais c'est une confiance qui va s'exercer dans l'obéissance de la parole de Dieu et qui va se pratiquer par une vie de prière qui persévère. Quand les circonstances semblent se liguer contre vous, souviens-toi que la question de Jésus n'est pas une reproche. Où est votre foi? Jésus n'est pas en train de faire une reproche à ses disciples-là. C'est une invitation. Comme à un enfant à qui on aurait remis une baguette magique, qui commence à paniquer. Alors tu dis, mais où est-ce que tu as mis ta baguette magique? Ce n'est pas une reproche, c'est lui rappeler qu'il a une baguette magique. Où est votre foi? Ce n'est pas une reproche, c'est une invitation. Une invitation d'utiliser notre foi. Alors je vous pose et je nous pose la question aujourd'hui, où est ta foi aujourd'hui? Dans cet épisode précis, à cette heure précise, place-la en celui qui commande les vents et les flots, et le calme reviendra. Bien-aimés, comment commencer une nouvelle année sans prendre une résolution? Une très bonne résolution. Alors, j'aimerais finir ce matin par la résolution de l'année, compter sur le maître. La souveraineté de Dieu n'est pas une théorie abstraite, mais c'est quelque chose que nous pouvons vivre concrètement. Et cette souveraineté de Dieu, nous la vivons de manière très concrète et nous la traduisons, nous allons la traduire en des gestes simples mais constants. Confiance, courage et prière. Confiance, courage et prière. Trois attitudes, trois disciplines, trois chemins par lesquels le Seigneur veut nous apprendre à grandir en maturité en 2026. La première chose, croyez ce qu'il dit et recevez ce qu'il donne. Le psaume 37, le verset 5 nous dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Cette parole nous propose une dynamique en trois étapes. D'abord, confier, se confier et voir Dieu agir. C'est ce que la parole nous propose. Croire, ce n'est pas fermer les yeux, mais c'est les ouvrir sur l'infaillibilité et la fidélité de Dieu. Et recevoir, ce n'est pas exiger, mais c'est accueillir avec gratitude ce que Dieu juge bon au bon moment qu'il choisit de façon souveraine. Et la Bible ne nous enseigne-t-il pas que Dieu fait toutes choses bon en son temps? Je nous invite à faire une application concrète ce matin. Je vous avais demandé de prendre vos téléphones. Il y a une application dans vos téléphones qui s'appelle Note. Cette application, si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes de la même école que moi, c'est-à-dire le papier crayon. Alors, vous pouvez prendre votre papier crayon. Vous n'êtes pas obligé de compléter l'exercice aujourd'hui. Vous avez encore quelques jours pour le compléter. Mais je nous encourage à compléter cet exercice avant le 1er janvier. Ce que je te demande de faire, écris ce que tu décides de remettre à Dieu pour la nouvelle année. Les choses que tu ne veux plus garder, tu veux les remettre à Dieu. Des situations hors contrôle, des décisions délicates, des relations conflictuelles, des projets importants. Et tu verras la main de Dieu commencer à agir. Relis cette liste-là chaque semaine. Et à côté de tout ce que tu avais écrit que tu allais confier à Dieu, mets à côté tous les petits signes de la main de Dieu en action. C'est comme ça que ta confiance en Dieu va être boostée pour tout le reste de l'année. Quand tu verras la main de Dieu agir petit à petit dans toutes les choses. Moi, j'ai commencé à réfléchir à ma liste, bien-aimée. Je ne sais pas si je vais la finir avant le 31 décembre. La liste est longue. Les choses que j'aimerais confier à Dieu en 2026, la liste est longue. Mais je vais les écrire. Et je veux chaque semaine relire cette liste et dire, ah, cette semaine, la main de Dieu a commencé à agir sur ce point qui était dans ma liste. Voici ce que je nous propose pour cette année. La foi active consiste à remettre son destin à Dieu avec confiance en croyant que ses promesses sont oui et amen. La deuxième résolution que je nous invite à prendre, c'est ne tremblez pas face à l'adversité. Jésus 1, le verset 9 nous dit, « Ne t'ai-je pas donné ce ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Le courage chrétien n'est pas une témérité, ni une inconscience. C'est le reflet que nous sommes conscients de la présence de Christ. Celui qui se tient à nos côtés, c'est-à-dire Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Il veille sur nous nuit et jour. Dieu ne nous promet pas l'absence de défis. Dieu ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de défis dans notre vie comme enfants de Dieu. Il nous promet et nous garantit sa présence apaisante dans les défis. Au cours de cette année, existe-t-il un domaine dans ta vie pour lequel la peur t'a dominé? Prise de parole, décision difficile, confrontation nécessaire. Prépare une action concrète, petite, peut-être voire minuscule, mais réelle, que tu veux faire avec Dieu. Le courage du chrétien, ce n'est pas être capable de tuer un lion à main nue comme Samson, mais le courage du chrétien grandit pas après pas en faisant confiance à chaque pas à celui qui est le maître du temps et des circonstances. Ne pas trembler ne veut pas dire qu'on n'a aucune crainte, aucune peur en nous. C'est tout simplement faire preuve de force et de courage, sachant que celui qui tient les horloges du temps et celui qui est le maître des circonstances est à nos côtés. Et enfin, bien-aimés, je nous invite, dites-le au maître en toutes circonstances. J'ai réalisé il y a 2 ans environ, et la tendance ne s'est pas malheureusement démentie avec l'âge, que j'étais assez inquiet pour tout et pour rien. Alors j'ai décidé, au début de 2025, de faire du verset suivant une sorte de balise pour me guider. Dans Philippiens 4, les versets 6 et 7, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si je voulais synthétiser ce verset en une seule expression, je dirais « En toute chose, dites-le au maître. » C'est ce que ce verset veut dire. « En toute chose, dites-le au maître. » La prière, ce n'est pas le dernier recours, comme c'est malheureusement notre cas. La prière, c'est le souffle de vie qui nous fait vivre à chaque instant. C'est notre souffle constant. Si nous maintenons ce souffle, alors la Bible nous promet que la paix de Christ, inexplicable par l'intelligence humaine, gardera nos cœurs et nos pensées, va surveiller nos pensées et va protéger notre cœur. Bien-aimés, laissez-moi vous donner une illustration très, très pratique. Imagine une nuit où tu as du mal à dormir. Les heures s'égrènent lentement au rythme du tic-tac de l'horloge du salon. Tes pensées vagabondent ça et là. Réunion, échéance, soucis. Tu ouvres ta Bible et tu tombes sur le verset de Daniel 2:21 qui dit que Dieu change les temps et les circonstances. Tu soupires profondément et presque machinalement, tu formules une simple prière. Seigneur, si tu tiens les horloges entre tes mains, tu peux aussi toucher mon cœur. Tu te tournes nerveusement sur ton lit comme si tu voulais voir l'effet immédiat de ta prière. Certes, rien ne semble changer dehors, mais quelque chose se déplace en dedans de toi. Un calme discret, une certitude douce. Le matin venu, l'orage n'a pas disparu, mais elle a perdu son pouvoir. Pourquoi? Parce que quelqu'un pendant la nuit a réajusté les aiguilles, pas celles du cadran du salon, mais quelqu'un a réajusté les aiguilles de ta confiance en celui qui tient les temps et les circonstances entre ses mains. Nous voulons devenir ce peuple qui sait revenir au maître quand les horloges de nos vies s'affolent et quand les circonstances de nos vies prennent de l'ampleur. Nous ne voulons pas nier la réalité, bien-aimés, mais nous désirons confesser une plus grande réalité que les réalités que nous vivons, c'est la présence de Christ dans notre vie. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Et je vais inviter l'équipe de louanges à revenir. Aujourd'hui, nous avons rapidement, en explorant ces deux textes, nous avons voulu confesser que Christ est le maître du temps. Il a créé le temps et il reste vraiment le maître de ce temps. Il a créé le temps et il est libre et il a la souveraineté pour changer le cours, pour accomplir son dessein. Nous avons aussi reconnu qu'il est le maître de toutes les circonstances. Il commande même au vent et à l'eau, comme nous avons lu ce matin, et il accompagne son peuple à travers les tempêtes. Et nous avons adopté une résolution, compter sur le maître avec foi, courage et en priant. Alors que commence la nouvelle année, 2026, choisissons chacun individuellement d'entrer chaque jour dans la nouvelle année, comme dans un culte où nous pouvons proclamer « Seigneur, cette heure est à toi, ce rendez-vous est à toi, cette attente est à toi, cette tempête est à toi, conduis-moi. » Voici notre prière. Nous avancerons non au rythme des horloges, mais au rythme et sur la souveraineté de notre maître. Je vais vous inviter tout à l'heure, avec l'équipe de louanges, à redécouvrir les paroles d'un vieux cantique dans les ailes de la foi, le cantique 295. Et à le chanter comme une prière, non pour réciter les mots, mais pour remettre nos événements, nos délais, nos tempêtes et notre histoire entière entre les mains de celui qui tient les temps et les circonstances entre ses mains et qui prépare pour nous des projets de paix et d'espérance. Voici ce que le cantique dit. « À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. » Le refrain dit, « Comptez sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Suis-je en paix? Vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière si l'horizon s'assombrit. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui. Je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Bien-aimé, Christ est le maître absolu du temps et des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Plaçons notre confiance en lui, car celui qui change les temps et les circonstances prépare pour nous, pour 2026, des projets de paix et d'espérance. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni. Merci pour ta glorieuse présence au milieu de ton peuple ce matin. Merci, Seigneur, de ce que ce matin, nous pouvons apprendre que tu es le maître du temps et tu es le maître des circonstances. Seigneur, tu nous as vus tout au long de l'année 2025 et l'année 2026 qui s'annonce, nous voulons proclamer que tout au long de cette nouvelle année que nous allons parcourir chaque instant, chaque moment de cette nouvelle année avec toi, conscient que tu es le maître du temps et des circonstances de nos vies. Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, pour la fille de Jaïrus, comme tu l'as fait pour la femme atteinte d'une perte de temps, de sang, comme tu l'as fait pour les disciples qui étaient en panique dans la barque, comme tu l'as fait, Seigneur, Seigneur, depuis des millénaires, Éternel, ce matin, nous voulons croire que tu es au contrôle de nos vies. Seigneur, que tu es dans notre histoire et que tu marches avec nous. Seigneur, nous ne voulons pas nier les réalités de nos vies, mais nous voulons croire en une plus grande réalité, celle de ta présence dans nos vies. Que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen.